Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau.
Eh oui, Barbara, magnifique, l'absinthe. Ces dernières semaines, cette histoire d'amour tragique entre ces deux hommes du 19e siècle est au cœur de l'actualité. 130 ans après leur liaison passionnée et violente, on n'a jamais autant parlé de Paul Verlaine et d'Arthur Rimbaud, alors qu'une pétition signée par plusieurs centaines d'intellectuels, anciens ministres de la Culture ou écrivains, circule pour les faire entrer ensemble au Panthéon, comme une reconnaissance de l'importance des poètes parmi les plus grands de notre pays et de leur homosexualité longtemps niée. Alors qu'au même moment, d'autres s'y opposent, notamment parce que Rimbaud et Verlaine étaient trop libres pour le Panthéon, et même l'un d'eux avait demandé pour la guerre de 1870 en disant qu'il préférait que ce soit les Prussiens qui gagnent. Ce serait gênant de le mettre à côté de Jean Moulin. Vous voyez, libre, il l'était assurément. De toute l'histoire de la littérature française, celle du couple Verlaine-Rimbaud est certainement la plus enflammée, la plus chaotique, la plus destructrice. Mais leur romance tumultueuse a aussi permis à ces deux génies de la poésie de créer leurs plus beaux textes. Romance sans parole et sagesse pour Verlaine, une saison en enfer et illumination pour Rimbaud. Initialement, rien ne laissait présager une telle fougue ravageuse entre ces deux amoureux des mots. Les deux hommes échangent longuement par lettres interposées. C'est Charles Bretagne, avec qui le jeune Rimbaud, encore ado mais qui se passionne déjà pour la poésie, passe du temps, qui le met en contact avec un ami et le seul poète que Rimbaud estime vraiment, Paul Verlaine. Il se pourrait bien que Charles Bretagne ait informé Rimbaud du penchant de Verlaine pour les garçons. Pourtant, en 1870, Verlaine a 26 ans. Il est marié avec Mathilde Maupé. Le couple habite Paris. Le jeune homme écrit des poèmes édités dans le Parnasse contemporain. De son côté, Arthur Rimbaud vit à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Il a 16 ans, a obtenu de nombreux prix à l'école, mais en pleine guerre contre la Prusse, les établissements scolaires sont fermés. Son rêve est de rejoindre Paris, la capitale, la seule ville dans laquelle il pourra laisser libre cours à sa passion, la poésie. Pour parvenir à fuir, Rimbaud dépeint sa mère comme une marâtre qui ne lui donne que 10 centimes par semaine et l'oblige à en faire don chaque dimanche à l'église. Sa stratégie fonctionne. Verlaine, attendri, lui glisse dans une enveloppe l'argent nécessaire au trajet pour Paris, lui disant « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Fin septembre 1871, Rimbaud est à Paris, hébergé chez les parents de Mathilde, l'épouse de Verlaine. Une maison bourgeoise à Montmartre, dans laquelle le couple habite également. Mais la cohabitation entre Mathilde et cet adolescent ingérable, fier gaillard aux yeux bleus transperçants, aux longs cheveux bouclés et au corps robuste, se passe mal. Rimbaud voit en elle une rivale, une épouse qu'il faut à tout prix écarter. Il fait tout pour la choquer. Il transforme sa chambre en taudis, fume la pipe à l'envers et bronze nu dans le jardin à côté de la maison. C'en est trop pour Mathilde, qui exige son départ. Si l'épouse de Verlaine ne supporte pas Rimbaud, ce paysan mal dégrossi, Paul, lui, est totalement sous le charme. Avec Arthur, ils adorent marcher dans Paris. Paul écoute les idées révolutionnaires de l'adolescent. Il présente son protégé à ses amis dans les cafés littéraires. Ils font partie du cercle des Utiques, Zut étant un juron très grossier à l'époque.
Bien sûr, dire. Ça a un petit peu changé, oui.
Oui, il y a pire que Zut. Les deux amis, amants, passent le maximum de temps ensemble, dépensent l'équivalent d'un mois de salaire, souvent en alcool. Verlaine initie Rimbaud à la fée verte, l'absinthe, dans laquelle il s'enivre jusqu'au petit matin. Et ils ne tentent même pas de cacher leur liaison. Un soir, ils sont aperçus bras dessus bras dessous au théâtre de l'Odéon, s'embrassant pendant l'entracte. Entre l'absinthe, la pipe, l'écriture... De...
Oui, l'absinthe, la pipe, l'écriture, les journées étaient chargées. Hein.
La relation entre Rimbaud et Verlaine, bien qu'immorale en ce début des années 1870 en France, semble leur convenir. Mais il y en a une qui n'a pas vraiment le cœur à déclamer des poèmes.
Tu m'étonnes.
La femme de Verlaine est récemment mère de leur fils Georges.
En plus, c'est vraiment dégueulasse.
Verlaine, souvent alcoolisée, multiplie les colères, tente de lui brûler les cheveux, moleste leur fils Georges dans son berceau. Il est pris entre deux feux. D'un côté, une vie rangée et bourgeoise. De l'autre, une vie de bohème exaltante mais dangereuse avec Rimbaud. L'homme doit faire un choix. Le jour où Arthur Rimbaud souhaite quitter Paris pour la Belgique, il demande à Paul de le suivre. Verlaine ne reviendra jamais chez lui. Pendant plusieurs mois, les deux hommes vivent sans contrainte, passent le plus clair de leur temps à boire et écrire. Et cette débauche sans limite semble d'une certaine façon bénéfique. Paul rédige à cette période son meilleur recueil, Romance sans parole. Rimbaud et Verlaine finissent par se séparer. Rimbaud retourne à Charleville. Verlaine, anéanti, écrit ses vers les plus célèbres. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Les deux hommes se retrouvent finalement à Bruxelles, début juillet 1873. Mais Verlaine, toujours tiraillé entre son attirance pour Rimbaud et sa volonté de rentrer dans la normalité, est de plus en plus instable. Il achète un revolver, un 7 mm avec 50 cartouches. Il veut en finir et l'annonce à son amant le 10 juillet, alors qu'ils sont à l'hôtel. Rimbaud tente de partir. Verlaine verrouille la porte et lui tire dessus. Par chance, seul son poignet est touché. Le juge en charge de l'affaire est davantage intéressé par la relation entre Rimbaud et Verlaine que par les coups de feu. Il diligente deux médecins. Leur mission, déterminer si oui ou non Paul Verlaine est un pédéraste par fait totalement inconcevable, un examen approfondi des organes génitaux de Verlaine et de son anus pour, je cite, « vérifier entre autres sa contractilité ». Le rapport conclut à une activité, disons, réciproque. Verlaine est condamné pour tentative d'homicide à 2 ans d'emprisonnement et 200 francs d'amende. La pédérastie étant un fait aggravant. Les enquêteurs retrouvent dans ses affaires un poème que Verlaine avait écrit à Rimbaud. « Quel ange dur ainsi me bourre entre les épaules tandis que je m'envole au paradis. Toi le jaloux qui m'a fait signe, oui me voici, voici tout moi. » Vers toi, je rampe encore indigne, monte sur mes reins et trépigne.
Ils auraient pu se passer de l'examen, du coup. Et c'était écrit. C'est vraiment, c'est trop bête.
Mais vous savez, ça peut être une licence poétique.
Oui, ah, oui, ça aurait pu.
Les deux hommes continuent à correspondre et ne se revoient qu'une ultime fois à Stuttgart en février 1875. Rimbaud en relate leur rencontre qui fut terriblement violente. Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un chapelet aux pinces. 3 heures après, on avait renié son Dieu et fait saigner les 98 plaies de notre Seigneur.
Europe 1, historiquement vôtre.